dans votre émission de Radio Cap Titulaire Regard sur la qualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué la qualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons ici au studio M. Blaise Zaïnda. Il est journaliste indépendant, il est manager des médias. Bonjour Blaise Zaïnda.
Bonjour Guy.
Madame Aimée Magnong, elle est coordonnatrice générale du réseau pour l'autonomisation de la femme, REPAF en sigle. Elle est chef d'équipe au cadre des concertations de la société civile de la province du Lualaba. Bonjour Madame Aimée Magnong.
Bonjour Mathieu.
Et en ligne depuis Niamey, capitale du Niger, Sédi Kaba, il est journaliste écrivain, chercheur associé au groupe interdisciplinaire et de recherche en histoire de l'Afrique, GIRA en sigle, de l'Université de Québec à Montréal au Canada. Bonjour Sédi Kaba.
Bonjour, c'est un immense plaisir de me joindre à vous.
Merci, à tout de suite pour la rétrospective de cette journée d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours des 7 derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Je rappelle que cette émission connaît la participation de Blaise Zaïnda, qui est journaliste indépendant, il est manager des médias. Madame Aimée Magnong, coordonnatrice générale du réseau pour l'autonomisation de la femme, REPAF en sigle, elle est chef d'équipe au cadre des concertations de la société civile de la province du Lualaba. Et en ligne depuis Niamey, capitale du Niger, Sédi Kaba, journaliste écrivain, chercheur associé au groupe interdisciplinaire de recherche en histoire de l'Afrique, GIRA en sigle, de l'Université du Québec à Montréal, au Canada. Au menu de cette émission, l'activisme des rebelles des ZDF dans l'Est de la RDC, l'interpellation des opposants politiques et la clôture de la conférence DRC Mining à Lubumbashi. Mais nous allons commencer par émettre un petit commentaire sur les récents rapports du groupe d'experts sur la RDC. En effet, les annonces du retrait et des désengagements apparemment éphémères et stratégiques du M23 avaient principalement pour but de gagner du temps face à la montée de la pression internationale, indique le rapport du groupe d'experts sur la République démocratique du Congo publié le 20 juin. Malgré les initiatives menées au niveau bilatéral, régional et international pour désamorcer la crise liée au mouvement du 23 mars M23, ce groupe armé, qui fait l'objet des sanctions, a continué d'étendre considérablement son territoire et de multiplier ses attaques, causant ainsi une crise humanitaire de grande ampleur et le déplacement de plus d'un million de civils dans la province du Nord Kivu, note le rapport. Le M23 a également tenté, selon le rapport, de se faire des alliés dans le sud Kivu, en particulier les groupes armés Turanero, dans le but d'y ouvrir un front. Pour les experts, la diversité des équipements militaires du M23, dont certains des productions récentes, montre l'importante puissance des feux du groupe armé et atteste des violations de l'embargo sur les armes. Le groupe d'experts a identifié plusieurs commandants et responsables de la RDF qui coordonnent les opérations de la force en RDC. Blaise Zaïnda, comment vous réagissez aux révélations contenues dans ces nouveaux rapports du groupe d'experts de la RDC qui accablent davantage le gouvernement rwandais?
J'ai suivi avec beaucoup d'attention ce rapport émis par un groupe d'experts des Nations Unies, ce qui ne fait que confirmer les faits tels qu'ils ont toujours été dénoncés depuis plusieurs mois d'ailleurs par différentes structures de la société civile, partout où le M23 est passé, il y a eu des alertes. Et même les forces armées de la République démocratique du Congo ont plusieurs fois lancé des signaux comme quoi prouvant à suffisance que les militaires rwandais sont derrière les rebelles du M23. Donc ce sont des faits qui, moi, me contentent. Mais je voudrais que cette fois-ci, nous puissions maintenant entendre les Nations Unies passer à l'action et ce, par différents mécanismes qui sont à sa portée.
Merci Madame Aimé Manyongo. Dans ce rapport, on précise même les noms des officiers de l'armée rwandaise qui supervisent les opérations du M23 et de la RDF en RDC. Ce qui souligne, n'est-ce pas, l'importance qu'accorde le gouvernement rwandais à cette guerre du M23. Il y a eu des pressions, mais tout cela n'a pas suffi, n'est-ce pas, pour faire bouger les lignes, pour faire, n'est-ce pas, reculer le Rwanda à travers le M23. Comment peut-on comprendre ce que certains experts qualifient de jusqu'au boutisme du gouvernement rwandais?
Merci beaucoup, monsieur. Et je crois que c'est plus un secret pour personne, le fait de savoir que la présence de troupes des M23 ne sont pas des rebelles, mais en fait, c'est le Rwanda qui est derrière pour essayer de développer et d'étendre ses ambitions expansionnistes dans notre territoire. Nous savons bien que nous sommes agressés, nous savons bien que nous sommes envahis par des troupes étrangères, et le M23, et plutôt le Rwanda, soutient le M23, tout le monde le sait, et ça saute aux yeux. Et maintenant que la communauté internationale, à travers le rapport Mapping, vient de le confirmer, après plusieurs dénonciations de la part de notre gouvernement, et toutes les autorités ont crié haut, le gouverneur militaire, les officiers, tout le monde, même la population, a déclaré que le Rwanda est derrière ses troupes. Mais aujourd'hui que c'est connu et que c'est porté même au niveau international, je voudrais que la communauté internationale, que l'ONU, mette en place des mécanismes pour essayer, pas pour essayer, mais pour bouter dehors ces gens, leur demander de partir de nos territoires. Parce que le dégât est assez énorme. On en a assez avec des discours, on en a assez avec des déclarations, avec des propos du genre « nous regrettons, nous sommes très touchés par la présence des troupes étrangères à l'est de la RDC, mais nous voulons que ces paroles se convertissent en des actions assez courageuses pour que la RDC retrouve sa sérénité. »
Merci, Sédi Kabar. Quand un régime engage ses généraux dans une bataille, cela montre, n'est-ce pas, l'importance capitale qu'il accorde à cette guerre. Est-ce qu'avec ça, on peut encore espérer une issue pacifique de ces conflits, Sédi Kabar?
Il le faut. Il faut imposer une issue pacifique. Elle ne viendra pas spontanément comme ça d'elle-même. Les enjeux sont énormes, particulièrement pour le Rwanda, qui, malgré les résolutions de la communauté sous-régionale, la communauté des États d'Afrique de l'Est, malgré la dénonciation répétée, n'a pas encore retiré son soutien au M23. Mais il faut, à mon avis, d'abord l'intérêt du rapport, c'est que pour une fois, ces accusations sont étayées et portées par les Nations Unies, dont on ne peut pas soupçonner la neutralité. On ne peut pas penser que les Nations Unies aient choisi un camp ou un autre. Et ça donne de la crédibilité parce que c'est les Nations Unies qui l'ont dit, même si on le savait déjà. Maintenant que cela a été documenté et porté par les Nations Unies, il faudra envisager l'étape suivante, puisque manifestement les dénonciations ne suffisent pas. Il faut s'inscrire peut-être dans l'agenda des sanctions contre tous ceux qui ne voudront pas respecter les différents appels à la raison, les différentes résolutions qui ont été prises. Je pense qu'il n'y a que ce type de démarche, celle des sanctions, qui peut faire entendre raison à ceux qui persistent encore à apporter du soutien au M23 malgré toutes les résolutions de la communauté sous-régionale, de l'Union africaine, de la communauté internationale. Je pense que c'est tout ça qu'il faut regarder et qu'il faut envisager d'ouvrir le chapitre des sanctions, à mon avis.
Oui, justement, M. Sédi Kabar, après la publication de ces rapports, beaucoup de réactions condamnent la présence des militaires de l'armée rwandaise en RDC. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France ont, n'est-ce pas, condamné. La France est allée même jusqu'à menacer les Rwandais d'éventuelles sanctions. Mais curieusement, aucune voix de la part des États africains. Et pourquoi ce silence de la part des États africains, Sédi Kabar?
Oui, non, c'est pas normal. C'est-à-dire que tout ce qui nous a jusqu'ici nui en tant qu'Union africaine, en tant que communauté africaine, c'est ce refus de nous dire la vérité. Et beaucoup de pays pensent que, comme c'est le Rwanda, il ne faudrait pas, comment dire, heurter le Rwanda, il ne faudrait pas critiquer le Rwanda. Or, si on veut vraiment construire une communauté régionale, une communauté africaine, il faut qu'on se dise la vérité. Même si c'est le Rwanda, il faut que, d'abord, nous sommes les premiers concernés en tant que pays africain. Nous devons dire les choses. Et d'ailleurs, si on n'a pas le courage de le dire par nous-mêmes, on peut s'appuyer sur le rapport des Nations Unies, dire que c'est les Nations Unies qui l'ont dit, et qu'on estime en tant que pays africain que cela doit cesser. Moi, je ne vois pas pourquoi on choisirait le Rwanda plutôt que la vérité, plutôt que, je ne sais pas, plutôt que cette vérité qui peut nous amener justement à construire une Union africaine, une communauté africaine, où les gens se disent la vérité, où les tricheries ne seront pas acceptées, où, comment dire, les violations de souveraineté ne seront pas acceptées. En tout cas, avec le mensonge et la complaisance, on n'ira pas loin, et c'est ce qui a retardé depuis l'organisation de l'unité africaine, en passant par l'Union africaine, qui aujourd'hui nous empêche encore d'avancer, parce que nous sommes dans la complaisance, et nous laissons les autres parler à notre place, gérer les crises à notre place, et de cette façon, on ne s'en sortira jamais. On sera toujours sous la tutelle des autres pays.
Merci, Blaise Zaïnda. Ne sommes-nous pas là en train d'assister à la mise en place, j'ai posé la même question la fois dernière, hein. Ne sommes-nous pas là en train d'assister à la mise en place, avec beaucoup de subtilité, d'une zone tempo, de facto, dans les territoires occupés par les M23?
Dans les faits, c'est ce qui est fait sur le terrain. C'est ce qui est fait sur le terrain. Ce sont des zones tampons qui existent et que beaucoup, en tout cas des chercheurs et beaucoup de Congolais pris de paix, pensent être des zones qui prépareraient une certaine balkanisation à peine voilée de la République démocratique du Congo. Et pour revenir à ce que a dit mon prédécesseur, mon éminent prédécesseur tout à l'heure,
Saïdi Kaba,
donc c'est inimaginable que les États africains s'étaisent par rapport à cette situation. J'ai suivi il n'y a pas longtemps le président zambien tenir des propos plutôt fraternels qui pourraient être teintés d'une certaine cordialité à l'endroit du président rwandais et du Rwanda, ce qui n'est pas tout à fait acceptable pour nous qui vivons cette situation catastrophique dans l'est du pays, mais aussi la France qui devrait intervenir et taper pratiquement sur la tête du Rwanda. Mais malheureusement, c'est cette même France qui vient d'octroyer 50 millions de dollars d'aide, je crois, budgétaire au Rwanda. Alors on s'est dit finalement, mais qu'est-ce qui se passe entre ce qui
dit... Ça, elle a menacé d'éventuelles sanctions
oui,
des
mais
Rwanda.
Sur le terrain, c'est pratiquement les choses qui sont contraires. Et on voudrait aussi, en même temps, comme c'est fut il y a quelques années où la Grande-Bretagne, qui pratiquement est un des principaux financiers du Rwanda, puisse aussi intervenir. Ces populations congolaises, ces populations du Rwanda, ce sont toutes des populations africaines qui nécessitent et qui doivent disposer des paix pour leur essor.
Merci Madame Aimé Manyongo. Finalement, le règlement de ces conflits passerait par quoi? Par un dialogue ou par une approche militaire?
Moi, je pense que RDC est dans une situation d'urgence. En dépit de sa vocation africaine, d'abord, nous devons constater que les silences coupables des États africains vis-à-vis de cet état de choses, de cette situation, devrait beaucoup plus interpeller les autorités congolaises et voir comment monter des stratégies, prendre des décisions assez courageuses pour imposer sa voix et sa philosophie, sa manière de penser à tous les autres États, non seulement aux États d'Afrique, mais aussi aux États du monde entier. Si les autres ont condamné cet état de choses, cette guerre injuste qu'on nous impose à cause des richesses énormes que nous regorgeons, qui du reste présentent beaucoup, beaucoup de conséquences par rapport à la situation sociale et humanitaire, moi je pense que toutes les solutions sont assez nécessaires pour parvenir à la paix. N'est-ce pas, on dit, tout chemin mène à paix. S'il faut passer par un dialogue, qu'on le fasse pourvu que la paix revienne. Et ça doit être un dialogue sincère. S'il faut passer par des moyens assez forts, moi, je ne pense pas qu'il y ait des situations ou des conflits qui se soient résolus uniquement par la voie diplomatique. Donc, il faut conjuguer les efforts dans tous les domaines pourvu qu'on atteigne l'objectif qu'on veut, et c'est la paix à l'est de la RDC.
Merci. On prend une petite pause avec Africa d'Ismaël Lo et on revient juste après.
Africa, des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombe, luttons pour la paix. Kunyamu Afrika, Molaïnia. Manejamu Afrika, Moïsunyu Natanke.
C'était Africa dans cette chanson. Ismaël Lô prône la paix en Afrique car il estime que la paix entraîne la prospérité. On revient à l'actualité cette semaine. Lors d'un point de presse, mardi 20 juin, les mouvements citoyens luttent pour le changement Lucha. Antenne de Kassindi a alerté sur la détérioration de la situation sécuritaire dans cette cité frontalière de l'Ouganda, située à une soixantaine de kilomètres de Beni, au nord Kivu. L'alerte de la Lucha fait suite aux attaques des EDF du 12 au 18 juin. Ces attaques ont coûté la vie à 46 personnes. Lors de ce point de presse, la Lucha a accusé les services de sécurité d'avoir failli à leur mission. Par ailleurs, le président ougandais Yoweri Museveni a appelé les forces armées de son pays et celles de la RDC à tout mettre en œuvre pour l'élimination totale des EDF dans la région. Dans un communiqué de presse du 18 juin dernier, dont une copie est parvenue mercredi 21 juin à Radio Kapi, Yoweri Museveni déclare « Nous n'avons aucune excuse pour ne pas traquer les terroristes EDF jusqu'à leur extinction ». Il s'exprimait ainsi quelques heures après le massacre des 37 écoliers du lycée Pondwe dans la région de Bouera, à la frontière avec la RDC, par ses groupes armés terroristes. Dans ses documents de 3 pages, le président ougandais revient aussi sur le succès, selon lui, de l'opération Suja, menée conjointement entre son armée et les FRDC dans les territoires d'Irumu, Anituri et de Beni, dans le nord Kivu. Yoweri Museveni cite par exemple l'élimination de quelques leaders rebelles des EDF et le démantèlement de plusieurs bastions dans la forêt des Zunguluka et Mwalika. Seydi Kaba, vous êtes journaliste, écrivain, chercheur associé au groupe interdisciplinaire de recherche en histoire de l'Afrique, JIRA en sigle, de l'Université du Québec à Montréal au Canada. Vous avez souhaité nous parler de l'activisme des EDF. On vous écoute.
Oui, en fait, au-delà du Congo, cet activisme de l'ADF présente un enjeu sous-régional et peut-être même un enjeu africain et international. Comme on sait, l'ADF avait fait allégeance à l'État islamique en 2021. Cet activisme confirme cette volonté de l'État islamique original qui est au Levant, c'est-à-dire en Irak et en Syrie, d'étendre son emprise sur l'ensemble du continent africain. Et c'est pour ça que je souhaitais que ce sujet soit abordé comme une sorte d'alerte, une sorte de mise en garde pour amener les gens à lire ces événements au-delà de l'Est de la République démocratique du Congo, au-delà du Congo, au-delà de la sous-région, mais dans une perspective internationale qui traduit la volonté justement de l'État islamique d'élargir son activité sur l'ensemble du continent. Vous savez que l'État islamique est déjà présent au Sahel avec l'État islamique au Grand Sahara, l'IGS. L'État islamique est présent en Afrique centrale. L'État islamique tente de prendre pied en Afrique australe avec la situation au Mozambique, dans la zone de Kalbadagado. Avec ce que l'ADF fait, on a la preuve et la confirmation qu'il y a une volonté de tisser un maillon territorial qui englobe l'ensemble du continent africain. C'est pour cette raison que, à mon avis, il faut inscrire la réponse à cette insécurité, à ces défis sécuritaires, dans une perspective globale. Et l'ensemble de la communauté africaine et même de la communauté internationale ont intérêt à ce que des moyens suffisants soient mobilisés
pour contenir l'ADF, pour neutraliser l'ADF et empêcher que la métastase terroriste gagne cette sous-région et qu'elle se répande sur l'ensemble du continent. Parce que, comme dans un cadre, comme on sait, comme disent les médecins, lorsque la métastase se sera éparpillée, elle va être difficile à contenir. Et c'est pour cette raison que je voulais vraiment qu'on mesure l'enjeu, qu'on mesure, qu'on comprenne, parce qu'il n'y a pas... On se méprendrait à considérer ça comme un phénomène local ou encore un phénomène national. Il faut l'inscrire dans une démarche internationale de l'État islamique avec son allié l'ADF qui essaye de construire une sorte de califat dans cette partie de l'Afrique et qui viendrait s'ajouter aux petits califats qui sont déjà construits pour continuer à faire nourrir la sécurité sur l'ensemble du continent africain.
On rappelle que vous êtes expert du Sahel. Justement, dans les Sahel, on a tenté avec les opérations Barkhane, Serval et Épervier, n'est-ce pas, des opérations menées avec l'aide de l'armée française, mais on n'est pas parvenu à défaire des groupes armés dont la plupart sont des groupes armés à tendance djihadiste. Ici, en dépit des opérations conjointes FRDC-UPDF, l'EDF est toujours actif et nuisible. On a l'impression que la force seule ne suffit pas pour éradiquer, n'est-ce pas, la menace causée par ce type de groupes armés, c'est Dikaba.
Vous avez raison et je pense que l'intérêt, c'est qu'on puisse tirer les leçons apprises du Sahel. Et au Sahel, comme vous avez dit, on a pratiquement échoué à contenir la menace djihadiste puisque en 2013, la menace était localisée au Mali. Aujourd'hui, elle dépasse le Sahel, elle menace même, elle s'est déjà exportée aux pays du Golfe de Guinée, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire et même le Ghana dernièrement. Et parce que le type de réponse qu'on a apporté n'était pas adapté. On pensait qu'on pouvait écraser ces groupes djihadistes par la seule force armée. Or, ce qu'on a appris comme leçon et qu'on souhaite que les autres prennent, comment dire, tirent les leçons de notre expérience, c'est qu'il faut construire une réponse holistique qui va au-delà du sécuritaire et du militaire, qui intègre la question de la gouvernance, la question des jeunes qui sont abusés par ces groupes terroristes, la question de la forme de l'État, la question de la fin de l'impunité, la question du développement. Donc, si on construit une réponse élitiste, on pourrait être efficace. Et c'est ça qui a manqué au Sahel. Et aujourd'hui, au Sahel, il y a une réflexion qui est engagée pour justement changer le paradigme, changer le type de réponse qui a été apporté pour apporter un type de réponse plus adapté, plus efficace. Et à mon avis, il ne faut pas attendre 10 ans comme au Sahel pour construire ce type de réponse. Il faut commencer à le construire dès maintenant, tout en mobilisant la réponse militaire et sécuritaire pour stabiliser avec ce que fait la République du Congo et l'Ouganda. Il faut, à côté de ça, construire aussi les autres piliers de la réponse, à savoir le développement, l'état de droit, la justice, la forme de l'État. Tout ça doit être convoqué et mis ensemble pour que la réponse soit efficace.
Merci Blaise Zainda, journaliste indépendant et manager des médias. Le président Museveni, vous avez suivi ici, est revenu sur le succès, selon lui, des opérations Soudja menées conjointement entre son armée et les FRDC dans l'est de la RDC, en citant par exemple l'élimination de quelques leaders rebelles des EDF et le démantèlement de plusieurs bastions dans la forêt des Zunguluka et Mwalika. Alors la question que l'on peut se poser, c'est celle de savoir que vaut le démantèlement d'un bastion pour un groupe armé qui n'a pas besoin de bastion pour nuire. Que vaut le démantèlement, n'est-ce pas, d'un quartier général pour un groupe armé qui n'a pas besoin de quartier général pour opérer?
Ça, c'est la bonne question que vous posez. Hein. Je me demande donc à quoi servirait d'évoquer un tel succès de démantèlement si chaque jour on évoque toujours ces bords de trous dans la région de Béni, si on peut l'appeler ainsi, parce que ça, malheureusement, cela va même jusqu'au niveau de la province de l'Ituri. On dénombre aussi des morts, des personnes qui sont tuées par ces terroristes ADF-MTM, ce qui est très malheureux. Et bon, je vois que le président ougandais, ces derniers temps, s'est beaucoup plus réveillé avec l'acte intervenu que nous condamnons tous, à Bouira, c'est dans le district de Kasese. De l'autre côté, à la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, où on a vu qu'il y a près de 40-45 personnes, des enfants particulièrement aussi, qui ont été tués, ce qui a motivé le gouvernement ougandais à descendre sur le terrain. Mais ce qui m'inquiète un tout petit peu, ce sont les allégations. Bon, on va pas parler d'allégations, ce sont des propos tenus par le président Yoweri Kaguta Museveni, qui lui a dit qu'il va poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier retranchement. Il ne tient même pas compte, en fait. C'est ça, en fait, ce que j'ai comme information provenant de la partie est du pays, de la région de Béni, il ne concentre pas ses actions dans une structure bien définie qui s'avère être les opérations conjointes FRDC et PDF, Shuja, mais la plupart des militaires qui ont traversé pour, semble-t-il, traquer, parce que les images ont un tout petit peu circulé, traquer les ADF sont des militaires de force ougandaise, du PDF, qui ne sont même pas repris dans les opérations, mais qui, de manière tout à fait libérale, rentrent sur nos territoires comme ça, et puis, quelle que soit l'origine, ou plutôt la raison de leur présence sur notre terrain, mais ça doit se faire selon le respect de certaines normes, et jusque-là, nous pensons qu'il y a des choses à faire et qu'il y a des choses à redire par rapport à cette opération, qui, pour moi, en tout cas, c'est vrai, qu'on a peut-être réduit la nuisance des EDF dans les zones urbaines, Ouicha, Béni, peut-être un peu... on peut aller jusqu'à Kassindi, mais dans le fin, ces rebelles qui ne sont pas identifiables physiquement comme ça, c'est une guerre plus ou moins asymétrique, c'est quand même assez... ça passe pas trop bien quand on affirme qu'on aurait démantelé un réseau, qu'on aurait supprimé un bastion.
Merci, Madame Aimée Magnon, coordinatrice générale du réseau pour l'autonomisation de la femme REPAF en sigle. Vous êtes chef d'équipe au cadre des concertations de la société civile de la province du Lualaba. Comment vous comprenez la résilience de ces rebelles qui, malgré les opérations qui ont été menées jusque-là, continuent de résister?
Ces rebelles résistent parce que nous savons déjà leur agenda caché. C'est qu'il n'y a pas à la base, depuis l'avènement de Mouvé Kabila, nous savons que ces gens-là sont toujours là, même s'ils peuvent revêtir plusieurs casquettes, plusieurs statuts, plusieurs dénominations, mais leurs ambitions restent les mêmes parce que leur persistance en témoigne. C'est qu'ils sont tout simplement attirés par nos richesses, par nos minéraux. Ils ont besoin d'occuper nos terres, de nous prendre nos espaces. Et c'est pourquoi ils résistent. Ils n'ont aucune envie de partir. C'est pourquoi je l'ai dit tout à l'heure. Lorsque nous sommes à la recherche de la paix, nous devons investir tous les moyens nécessaires. Nous n'allons pas seulement nous éterniser avec la voie diplomatique. Si elle n'a pas donné des résultats, il faut passer à l'étape suivante. Il faut renforcer les mécanismes pour qu'on puisse pousser ces gens vers leur dernier retranchement. Parce que les conséquences sont énormes. Les richesses sont là, mais ce n'est pas dans un désert, c'est dans des territoires qui sont habités par des gens. Et aujourd'hui, de nombreuses familles sont tuées, des familles sont déplacées, les familles sont divisées, séparées. Il y a des assassinats, il y a des violations massives, des violations des droits de l'homme, des droits humains. Et même les fondamentaux même du droit international, parce qu'il y a cette notion d'intangibilité des frontières. Il n'y a pas respect même des frontières de la RDC. En poursuivant nos richesses qu'ils veulent bien avoir, ils sont en train de violer les droits internationaux, ils sont en train de violer les droits des hommes, parce qu'il y a des enfants qui sont martyrisés, il y a des enfants qui vivent des atrocités, il y a des viols, il y a des violations, il y a des tueries, il y a des populations déplacées, il y a la misère et il y a beaucoup de cas de souffrance qui caractérisent ces populations-là qui sont tout le temps exposées à cette guerre-là. Et donc cette persistance, c'est tout simplement parce qu'ils en veulent à notre minerai. Ce n'est pas nous qui avons demandé à Dieu de nous donner ce pays. Et ce pays est notre, nos richesses sont nôtres, nous savons. Tous les pays qui nous entourent, chaque pays a sa richesse, a ses richesses. Si nous en avons plus que les autres, et il y a moyen de pouvoir travailler de manière à tirer avantage de ce qu'il y a chez le voisin, sans pour autant créer des meurtres comme ça s'est fait là-bas. Il y a plus ou moins, depuis le début des hostilités, nous avons plus de 5 millions de personnes qui sont déplacées, qui vivent en dehors de leur toit. Et les femmes, qui constituent la majeure partie de ces populations, sont les premières victimes de ces violences. Et aucune disposition n'est prise pour protéger ces femmes-là. Quand ils arrivent, ils regardent pas qui est homme, qui est femme. Mais comme les femmes sont vulnérables, comme les enfants sont vulnérables, ils sont les premiers à être exposés. Et ça, c'est des choses que nous déplorons et que nous invitons la communauté internationale à agir urgentement. Parce que lorsque nous avons vu l'Ukraine assiégée par la Russie, on a vu la communauté internationale comment elle s'est démenée. La France a dépêché de moyens. Les États-Unis ont bougé. Mais ces Ukrainiens-là ne sont pas moins humains que le Congolais qui meurt à l'est de notre pays. À Beni, à Ituri, dans le nord et le sud qui vivent de l'autre côté. Donc il faudrait que la communauté internationale comprenne que nous sommes victimes de nos richesses.
Merci.
Et que le droit international peut servir à tous les États au même titre.
Merci, chères auditrices et chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale, comme vous le savez. Ferregola s'est produit ce samedi 24 juin au Stade des Martyrs ici à Kinshasa. Nous allons écouter un de ses classiques intitulé « Vie à zéro » et on revient juste après.
Chachino, l'homme qui dit non, que yes, mais l'amour les prophètes, Luca Kaiser Sosé, Clément Vivanta, Jeta Makanyaka, Marie-José Nzumba.
Bolingo, yes, mon délamaï, mon ayama, que yes, mais l'amour. Mettez-vous à la vie d'un maï, caca bamboula, aïe. Bolingo esi eswa kamino na moti ma pati ebele Na mesona na mawa, nesi nzole mesona na moto ya mokola
Hey mama, okumi obuya na kaka Puyelika mono salite, s'il te plaît Ile nyama imelango na posa, yoza na posa te
Bolingo esi eswa kamino na moti ma pati ebele
Regard sur l'autre côté de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25, heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'autre côté de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ces magazines, nous avons fait un commentaire sur les récents rapports des experts des Nations Unies sur la présence de l'armée rwandaise en RDC. Nous avons également, n'est-ce pas, analysé l'activisme des ZDF dans l'est du pays. Participe à cette émission, Blaise Zaïnda, il est journaliste indépendant, il est manager des médias. Madame Aimé Magnong, elle est coordonnatrice générale du réseau pour l'autonomisation de la femme, REPAP en sigle. Elle est chef d'équipe au cadre des concertations de la société civile de la province du Lualaba. Et en ligne depuis Niamey, capitale du Niger, Seydi Kaba, journaliste et écrivain, chercheur associé au groupe interdisciplinaire de recherche en histoire de l'Afrique, JIRA en sigle de l'Université du Québec à Montréal au Canada. L'opposant Franck Diongo, président du parti politique Mouvement Lumumbiste Progressiste MLP en sigle, a été enlevé mardi 20 juin matin par des hommes armés en uniforme au croisement des avenues Kabinda et des Uluri à Kinshasa. Selon le secrétaire général de ce parti, Paul-René Loaka Tambwe, avant son arrestation, Franck Diongo était dans un deuil à l'hôpital du cinquantenaire. Jusque-là, la cause de l'interpellation de Franck Diongo n'est pas encore connue. Le lieu de sa détention n'est pas non plus révélé. Cette interpellation intervient 3 semaines après celle de notre opposant Salomon Idi, conseiller spécial et politique de Moïse Katumbi, arrêté le 30 mai dernier à l'aéroport de Ndjili, ici à Kinshasa. Blaise Zaïnda, vous avez opté pour ce sujet, on peut savoir pourquoi.
Parce que simplement, je me dis qu'il est temps que nous, journalistes, puissions rappeler un certain nombre de faits, parce que nous ne parlons que sur base de faits. Ce sont ces faits-là qui fondent notre profession, qui fondent nos convictions à continuer à travailler pour la République démocratique du Congo. Et fort de mes 3 cycles électoraux couverts au niveau de la République démocratique du Congo, comme journaliste, je crois que les signaux qui se présentent en ce moment ne sont pas verts, ce sont des signaux qui sont plutôt rouges. Pourquoi j'ai voulu parler des opposants? Parce que je constate que depuis un certain temps, nous sommes soumis à des interpellations des opposants qui sont certainement traqués pour des raisons qui ne sont pas encore clairement élucidées, parce que vous-même vous l'avez bien dit dans votre chapeau, lorsque l'on tombe sur un Franck Diongo et que, bon, c'est vrai que la procédure, je ne suis pas juriste pour remettre en cause un certain nombre de choses, mais je pense que, d'usage, on aurait quand même vu circuler un certain nombre de documents qu'il appellerait à s'exprimer sur base de tel ou tel autre sujet, ou si c'est pour des besoins de sûreté. Si on peut le dire ainsi, pourquoi ne pas, par exemple, directement passer en flagrance, qu'on comprenne les faits qui seraient graves, qui pousseraient à ce qu'on puisse violer un certain nombre de dispositifs au niveau de la justice pour tomber sur Franck Diongo? La même chose quelques semaines avant avec Salomon Kalondaïdi interpellé. Plusieurs jours, aucun signal, les avocats n'ont pas eu accès à leurs clients. Et puis, du coup, nous avons vu le conseiller juridique de l'état-major des renseignements militaires des forces armées de la République démocratique du Congo qui a tenu un point de presse, un OPJ, en tout cas pour la toute première fois de mémoire de journaliste, où il a pratiquement fait des accusations publiques, lui, l'OPJ, et ce, en violation d'ailleurs même du code judiciaire militaire qui renseigne qu'il est de ces faits qui ne peuvent pas être étalés à la presse dans une instance préjuridictionnelle. Et ce qui nous pousse quand même à nous poser tas de questions. Si on évoque aussi le cas de Matata Ponyo, qui, bon, on s'en tient à ce qui se passe, finalement, on a levé ses immunités pour une affaire liée à de biens liés à la zaïrianisation, finalement, il a été blanchi par rapport à ça, mais ses immunités, qui devraient être remises automatiquement, ne le sont toujours pas. On entre dans une guerre avec le président du Sénat. Et puis finalement, on se rappelle qu'en octobre 2021, même le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies avait émis quand même des inquiétudes par rapport à ce qui ressemblait à un acharnement sur Matata Ponyo au sujet d'un certain nombre de faits. Et cela nous pousse, nous, journalistes, à nous poser des questions et à voir que, bon, l'UEPS qui est au pouvoir, c'est un parti qui incarne des valeurs républicaines, démocratiques, ainsi de suite. Nous, depuis qu'on a été petits, nous avons cru en cela et nous voulons qu'à ce que ces valeurs-là soient mises sur la table et qu'elles soient appliquées.
Voilà, comme on est journaliste et on doit se baser sur les faits, la cible des services aujourd'hui, les services des renseignements, semble être les membres de l'opposition. Les contextes électoraux peuvent il expliquait cela, comme on dit, les pouvoirs cherchent à museler l'opposition, ou il ne serait pas prudent d'établir d'emblée ces liens aussi longtemps que la justice ne s'est pas encore prononcée, Blaise Aïnda?
Je crois que nous, comme vous le dites, les journalistes, nous sommes assis sur les faits. Hein. Nous, les faits sont clairement définis, mais on ne peut pas dire que quelqu'un est coupable tant que, même si on a vu la personne utiliser un couteau pour tuer une autre personne, tant que la justice n'a pas encore dit son mot, n'a pas encore rendu son jugement, nous, journalistes, nous nous réservons, on parle de présumés. Mais en ce qui concerne la présomption, pour le moment, les faits tels qu'ils sont étalés, nous présumons que ces attaques multipliées à l'encontre de l'opposition sont fondées par le fait que nous sommes à quelques mois des élections et qu'il faille, c'est vrai, c'est des bonnes guerres, voulais-je dire, que l'on puisse essayer d'affaiblir certains adversaires qui penseraient peut-être être très potentiels vrais candidats ou adversaires par rapport au jeu électoral.
Merci Madame Aimée Magnongo. Comment vous réagissez à cette actualité qui fait état de l'interpellation des opposants?
Ça fait mal, ça fait réfléchir. Ça brise l'élan d'espoir qu'on avait dans l'état du droit qu'on espérait voir, parce que nous avons espéré voir réellement émerger un état du droit, mais curieusement, on assiste à des scènes d'intolérance dans les milieux politiques, et ça frise le manque de volonté, de respect, même de principe de la démocratie. Et il y a des accusations à gauche, il y a des arrestations arbitraires et spectaculaires à droite, il y a des violations de droits de l'homme, il n'y a plus de liberté d'expression, il y a des menaces, il y a toute cette ambiance amène à se poser plusieurs questions sur l'état des droits dont on prône, on vante et on continue à crier, à dire vraiment que c'est l'état des droits qu'on veut instaurer. Mais je ne pense pas que c'est dans cette manière de faire. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des cris à gauche, à droite. Ce qui m'écœure, c'est quand j'entends des vieilles mamans dans leur maison perquisitionnée. Les effets personnels mis à nu à découvert, saccagés de maison des vieilles mamans, mettre des vieilles mamans, des femmes en mal par rapport à leur état psychique, à leur état matériel, physique, et tout ça, ça ne donne pas vraiment confiance aux institutions. Je joindrai aussi mon cri des cœurs à ces femmes-là. Ce sont des mamans qui pleurent. Et en tant que femme, je me mets à leur place et je n'admets pas cela. Et ça me fait mal de voir des mamans maltraitées. Là, dans un pays où nous sommes en train de parler des droits des femmes, nous sommes en train de parler de l'émergence du leadership féminin, de la promotion même de la femme, et on voit une balance de deux poids, deux mesures. Et ça, c'est pas bon. De l'autre côté, on veut promouvoir la femme, et de l'autre, on la met à mal. Et le pleur de la maman de M. Salomon Udi, joint aux pleurs de la maman de Franck Diongo, c'est celles qui ont porté leur voix plus haut, qui ont utilisé les médias, mais il y en a qui pleurent en silence, il y en a qui se meurent en silence avec toutes ces tracasseries et tout ce mouvement des violences qui sont en train de s'installer petit à petit. Nous sommes en train de perdre, nous sommes de la génération du Zaïre. Nous avons vu, nous avons traversé les époques, nous avons vécu l'époque de Moussa Kabila, nous avons vu vraiment le rêve congolais se réaliser et ça a été que de courte durée. Et il y a eu le président Kabila qui est arrivé. C'est vrai, il était trop jeune, mais il a pris quand même les choses en main pour pouvoir changer. Il a pu faire ce qu'il a pu et nous avons vu quand même une lueur d'espoir. Et quand le président est arrivé, le président Tshisekedi, il a dit c'est un état de droit. Et il a même dit le bien-être de la population est la loi suprême. Mais de quelle population on peut parler? Moi, je voudrais peut-être qu'on puisse revenir sur certaines paroles, certaines manières de faire les choses pour que la situation redevienne à la normale, qu'il y ait cet équilibre. La démocratie suppose aussi la liberté d'expression et il faudrait qu'il y ait cette tolérance dans le rang des politiciens. Qu'il y ait cette tolérance parce que ceux-là qui payent le prix, ce sont les femmes, ce sont les enfants, ce sont des familles. Et nous, en tant que femmes, nous n'admettrons pas cela parce que nous sommes les porteuses de la vie. Nous sommes les porteuses des valeurs. Et lorsque nous nous sentons exposés, nous nous sentons menacés, nous nous sentons vraiment pénétrés dans le fond de nos vies, de nos cœurs, de notre intimité, ça blesse et ça choque. J'aimerais que cette histoire-là cesse et que le gouvernement en place puisse mettre en place d'autres mécanismes pour mener de la bonne guerre en politique. Les opposants sont opposants, c'est reconnu, c'est les jeux démocratiques. Mais il faudrait quand même qu'il y ait des limites dans la poursuite ou la conquête du pouvoir.
Merci, Saïdi Kaba. Que répondez-vous à cette opinion selon laquelle certains impératifs politiques peuvent pousser parfois les dirigeants politiques à poser des actes qui peuvent avoir comme conséquence de façonner et de crédibiliser certains acteurs politiques?
Oui, je pense que, en l'occurrence, ce qui est le plus inquiétant, c'est le climat délétère qui vient s'installer à la veille des prochaines échéances électorales importantes pour la République démocratique du Congo. Ça ne présage de rien de bon si déjà il y a cette forme de crispation avant l'arrestation des opposants en vue comme ça. Et ce qui est le plus, inquiétant, qui est le plus déplorable, c'est pas que des opposants soient poursuivis, mais il faut le faire avec la manière et il faut le faire selon les textes qui sont prévus par la législation congolaise. Il n'est nulle part écrit qu'on peut arrêter quelqu'un, le détenir au secret comme ça pendant plusieurs jours sans qu'il ait eu accès à un avocat et puis un jour on sort, on dit voilà, il a fait telle chose. Donc je pense que ça, d'abord du point de vue même du régime en place, ça ne le crédibilise pas. Un régime qui a vécu, l'IPDS a quand même été pendant très longtemps dans l'opposition, a été martyrisé. On comprend assez peu que lui-même aujourd'hui se mette à commettre des pratiques qu'il a dénoncées par le passé. Vraiment, ce n'est ni dans l'intérêt du régime en place, ni dans l'intérêt de la démocratie au Congo, de créer ce type de comportement qui ne favorise pas la sérénité. Je pense que quand on vient simplement de fermer un chapitre sur l'insécurité, qui est le plus grand défi, et quand on fait face à une insécurité comme celle de la République du Congo, il y a lieu de chercher à construire un consensus national, il y a lieu à favoriser vraiment des règles démocratiques claires et acceptables pour tous, mais je vois que malheureusement le pouvoir n'a pas emprunté cette fois Et à mon avis, c'est vraiment dommageable pour le pays et dommageable pour la démocratie et pour tous ceux qui observent la RDC et qui voient en ce pays un grand pays. Comme disait François Fanon, la gâchette de l'Afrique, si l'Afrique était une arme, le Congo serait sa gâchette. Donc, vous voyez, à mon avis, il y a beaucoup de choses qui amènent vraiment à s'interroger, à même s'inquiéter sur le climat actuel préélectoral en RDC.
Merci. On prend une petite pause avec Course au pouvoir, cette chanson de Vicky Lungomba, et on revient juste après.
Le village à la qui mon frère, les lois de la commis opposition. Au commune, yembele, le col à moi n'étiquait pas d'écho. Yon soy au coyen belanga, les années caca pour son pouvoir. Au lobbying à la diatil y a dit, yon y a dit ton grand mon frère. Oye biye binga ibofe, wana deja lili sano koya. Oye belinga babi pibe o, wana demote malokoso. Lelo na ba vi prive o, lobi e koko ma na ba fami. Lobi na jala ki mon frère, lelo na komi opposition. Mo komi de yebele, loko la moine di ke ba neko. Yo so yo ko yembelanga, e jali kaka pour son pouvoir. Olo binga na nyatili yazi, yo nyatito la mofe. Olinga kanazu wakateo, poto yeba na bomwana. Olinga kamatanga kateo, kombo nangana biso na yo. Olinga kakosala sambla, na mola munga na sala yo. Olinga kakoyo kakateo, Opoko asali likambo boye. Olinga katosa la konkeronsa, la mwaya eko zanga kayo. Obo mi miziki ya batoe, na loko konda yo ya kabiyo.
C'était Course au pouvoir avec le célèbre artiste, musicien et compositeur Vicky Lungomba, qui nous a quittés il y a plusieurs années, paix à son âme. On revient à l'actualité de la semaine. Je rappelle que nous avons dans cette émission Blaise Zaïnda, il est journaliste indépendant et manager des médias. Madame Aimée Magnong, coordinatrice générale du réseau pour l'autonomisation de la femme Repa Francigle, elle est chef d'équipe au cadre des concertations de la société civile de la province de Lualaba, et en ligne depuis Niamey, capitale du Niger, Seydi Kaba, journaliste écrivain, chercheur associé au groupe interdisciplinaire de recherche en histoire de l'Afrique, JIRA, en sigle de l'Université du Québec à Montréal, au Canada. La 18e édition de la semaine minière de la RDC DRC Mining Week s'est clôturée vendredi 16 juin à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Ce forum, qui a réuni plusieurs experts du monde minier, a recommandé au gouvernement notamment d'accroître les investissements dans les domaines de la recherche minière. Après 3 jours de travaux, marqués entre autres par des expositions et des conférences, les participants ont adopté plusieurs recommandations, dont voici quelques-unes. L'accroissement des investissements dans la recherche géologique et minière des substances minérales stratégiques, ainsi que dans les secteurs de l'énergie et celui des infrastructures, la promotion de l'industrialisation et de la transformation au niveau local, la poursuite du processus d'amélioration du climat des affaires rendant les secteurs miniers plus attrayants et permettant un accroissement des fonds alloués au développement des communautés impactées par les projets miniers et d'accomplir les niveaux de diversification économique recherchés, ainsi que l'application effective de la loi sur la sous-traitance dans les secteurs miniers. Madame Aimée Magnong, on peut savoir pourquoi vous avez opté pour ces sujets.
Merci beaucoup, Monsieur Maté. Nous avons voulu parler de la DRC Mining Week parce que c'est vraiment une question très importante, dans ce sens que nous sommes en train de passer dans une transition qui place la RDC au centre de beaucoup d'enjeux sur le plan de la nouvelle technologie, au niveau des enjeux de la transition énergétique dans le monde. Et toutes ces activités-là réunies dans la DRC Mining Week, moi je pense qu'il était essentiel qu'on puisse revenir sur cette question parce que la RDC, nous sommes dans une zone du sud, là je place beaucoup plus l'accent sur le Katanga, qui présente un potentiel minier énorme. Et le Katanga, non seulement par son sol, mais aussi par son sous-sol qui est très riche avec des gisements miniers, dont le cobalt, le cuivre et tous les autres minéraux que vous connaissez. Et cet état des choses, le Katanga propulse la RDC, bien sûr, avec la partie de l'Est qui a aussi une partie des richesses qui est convoitée par l'Est. D'ailleurs, on en a fait mention tout à l'heure. Donc, ça pousse la RDC non seulement par rapport à sa position géostratégique au centre de l'Afrique, mais aussi par rapport à l'importance de cette transition énergétique, parce que fort de ces gisements miniers qu'il y a là-bas, et toute cette vitrine qui s'est présentée au Pullman Hotel la semaine du 16 passé, ça a permis de mettre les différents investisseurs, les différents exposants, et même inviter certains participants à venir pour parler au travers des conférences, des forums, des expositions, voir quels sont les potentiels, quelles sont les perspectives d'investissement dans les secteurs miniers.
Madame ?
Oui.
Parmi les recommandations, on a parlé de l'application effective de la loi sur la sous-traitance dans les secteurs miniers, un problème qui se pose avec acuité dans ces pays. Et à votre avis, comment peut-on améliorer la sous-traitance dans ces secteurs en RDC de manière, n'est-ce pas, à permettre aux entreprises locales d'avoir accès à cela et aussi de manière à permettre aux femmes d'y occuper une place de choix?
Merci beaucoup pour cette question très essentielle. J'étais en train de dire que la DRC Mining, c'était un moment d'offrir des opportunités à toutes les parties, ça veut dire les investisseurs, les exploitants industriels et même des artisanaux aussi. Et il y a aussi la partie des entreprises qui peuvent travailler dans la sous-traitance et mettre toutes ces catégories ensemble pour réfléchir comment on peut impulser, comment on peut tirer avantage de ces secteurs, de l'exploitation du secteur minier en RDC. Mais je pense que pour réussir la sous-traitance ici en RDC, nous avons le code minier. Le nouveau code minier, c'est le seul moyen, lorsque nous respectons toutes les clauses telles que c'est dit, telles que c'est mentionné, ça nous permet de voir dans quelle modalité on peut appliquer la sous-traitance dans les entreprises minières et faire bénéficier beaucoup plus des entreprises locales à se développer et aux autres entreprises de travailler dans un climat serein, un climat de convivialité, parce que nous savons que c'est dans un monde économique, c'est dans un monde d'intérêts, ce ne sont pas des amitiés, mais ce sont des intérêts qui priment. Mais le respect du code minier avec toutes ces clauses permet à la RDC de se replacer dans son contexte et dans sa position de cette grande entité qui offre les opportunités aux investisseurs de pouvoir déployer leurs moyens et leurs stratégies.
Merci.
Et donc, pour mieux, je crois que la mise en place de l'autorité de régulation de la sous-traitance permet de faire le suivi du code minier et voir cette loi-là, comment elle est appliquée dans les entreprises, afin de permettre aux Congolais de revenir dans leurs droits.
Merci, Blaise Zainda. Comment le secteur minier peut contribuer efficacement, n'est-ce pas, au développement des pays africains, au lieu d'être à la base de certains conflits armés, comme on les constate en RDC?
Je crois qu'on a posé les bases de ce qui peut nous aider, nous, Africains, à sortir de ce carcan, de cette atmosphère malencontreuse où nous sommes appelés à voir nos minerais être extraits, voulais-je dire, nos richesses être extraites, particulièrement les richesses minérales, et puis être envoyés pour être transformés à l'extérieur. Ça doit cesser d'abord. Il faudrait que ça cesse. Mais l'un des éléments qui nous donne plus ou moins de l'espoir, je crois que le nouveau code minier, il est très bon. Il est très bon, il donne des avantages assez notables à l'État congolais. Il faudrait que les Africains s'en inspirent. Mais aussi, je crois que nous devons un peu nous dessaisir de cette manière de voir les choses où nous sommes simplement des sortes de pondeuses, des minerais, et puis des autres les transforment, et puis viennent nous revendre à très fort prix. Il est besoin que nous puissions mettre un accent particulier. Heureusement, ça fait partie de recommandations sur la transformation locale. Nous pensons qu'avec le ministre de l'Industrie, c'est vrai que c'est un petit pas qui est tout de même considérable. Nous avons vu qu'il y a création d'une usine. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec peut-être le minerai. La production ou la fabrication des câbles électriques, mais aussi des transformateurs. C'est vrai que les miniers ont besoin de courant. Et si déjà on peut étendre cette production locale et associer à ce que nous avons appelé la sous-traitance, ça va aider le pays à décoller d'une manière ou d'une autre, particulièrement les différentes zones où l'on exploite ces minerais-là. Mais je pense qu'il est lieu, et il est besoin plutôt pour la partie de la région qu'on appelait le Katanga, même le Kivu aussi, puisqu'il est aussi intéressé et il est aussi concerné, que l'on puisse, l'Ituri aussi, évoquant avec ce qu'il y a comme la plus grande mine, je crois, aurifère de l'Afrique de l'Est, particulièrement avec Kibali, il est besoin que l'on associe tout ce qu'on est en train de faire avec l'agriculture. C'est très important. Tout ce qu'on est en train de vivre comme pénurie, rareté et tout, si on essaie de trouver une sorte de brèche qui lierait toute activité minière à une activité, si pas à une sorte de coup de pouce d'une activité agricole de manière tout à fait légale et que ça devienne une sorte de contrainte, ça va aider le pays à sortir de la situation dans laquelle il se trouve sur le plan alimentaire.
Merci M. Saïdi Kaba, on va finir avec vous. Que répondez-vous à ceux qui pensent que dans ces processus de production des minerais, les points de départ devaient être celui des procédés à l'estimation des réserves, car, dit-on, c'est celui qui détient l'information qui détermine même la valeur des minerais. On sait que ce secteur-là, ou ce travail-là, est beaucoup plus laissé aux multinationales qui viennent, qui font la prospection et qui ont des informations, n'est-ce pas, sur nos réserves. Et nous-mêmes, les États qui détenons ces réserves-là, nous ne connaissons rien au sujet de ces réserves, ce qui fait que ce sont les mêmes multinationales qui détermine la valeur de nos réserves. Et comment on peut inverser cette tendance?
Nous devons développer l'expertise qui nous permet de procéder nous-mêmes à l'évaluation des réserves. Jusqu'ici, nous nous sommes appuyés sur l'expertise extérieure. Et plus de 60 ans après nos indépendances, il n'y a pas de raison qu'une seule expertise en cette matière nous échappe. Donc nous devons construire un niveau d'expertise qui nous permette de nous passer des multinationales ou au moins de confronter les informations qui nous sont fournies par des multinationales. En raison de cette absence d'expertise aujourd'hui, comme vous l'avez indiqué, c'est celle, nous sommes obligés de nous en tenir, de nous fier aux informations qui nous sont données par les multinationales, qui ne peuvent pas être forcément des informations honnêtes et crédibles. La deuxième chose, à mon avis, au-delà de cela, c'est qu'il faut asseoir toute l'exploitation et l'extraction minière en Afrique sur une base totalement transparente. Que le processus soit transparent du début à la fin, de l'estimation à la signature du contrat, au partage de production, aux autres étapes, ça doit se faire de façon transparente. Enfin, il y a un troisième point qui a été évoqué par un de mes co-débatteurs, c'est la question de la transformation. Même si c'est une première transformation, quand vous prenez l'Afrique, les deux producteurs mondiaux du cacao, la Côte d'Ivoire et le Ghana, mais le chocolat est fabriqué ailleurs et ces pays ne captent pas 10% de ce qui est produit, de ce que le chocolat rapporte dans le monde. Donc en matière d'industrie extractive aussi c'est la même chose. Nous devons procéder au moins à une première transformation, ensuite arriver même à un niveau de transformation grâce à l'industrialisation. Et je pense que le fait que nous ayons convenu d'avoir une zone de libre-échange économique, ZLECAF, à l'échelle du continent, doit nous amener à inscrire la question de l'industrialisation du continent africain comme une priorité. Et comme ça, on tirerait le meilleur profit de nos mines. Il n'y a pas de raison que les pays africains soient les premiers producteurs de matières premières et qu'ils soient les plus pauvres du monde.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Blaise Zaïnda, à Madame Mme Anyong et à Monsieur Saïdi Kaba d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci aussi à Dex Vita qui était à la technique avec la participation d'Hervé Voka et d'Alain Ngoy. À la présentation, Guy Maté sous la supervision d'Alex et Sommet, Martin Soujangwe et d'Étienne Rogerie. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Chéri Badé d'Abeti Masikini et on se retrouve le samedi prochain. Thank you.
bade ninga na sala mpote na mona bapati ya nenge baye sibara mama e utana paradiso oho sobe sangwa sali mobali amoni tata elo como sufre dali cosa ae gosta masie namo pandi la mobali e badeo ganda li barawana quiero pito sali seco la go
Dios.